Livre 3, chapitre 3, Grand 1. Dans les cérémonies mêmes que nous avons décrites, à côté des oblations, sanglantes ou autres, des rites différents sont souvent célébrés, qui sont destinés à compléter les premiers et à en consolider les effets. Ils consistent en mouvements et en cris, qui ont pour objet d'imiter, dans ses différentes attitudes ou sous ses différents aspects, l'animal dont on souhaite la reproduction. Pour cette raison, nous les appelons mimétiques. Ainsi, l'intishuma de la chenille Wichetti, chez les Arunta, ne comprend pas seulement les rites qui sont accomplis sur les rochers sacrés et dont nous avons précédemment parlé. Lorsqu'ils sont terminés, on se met en route pour retourner au camp. Mais quand on n'en est plus éloigné que d'un mille environ, on fait halte et tout le monde se décore rituellement. Après quoi, la marche est reprise. Les décorations dont on s'est ainsi paré annoncent qu'une importante cérémonie va avoir lieu. Et en effet, pendant que la troupe était absente, un des vieillards qui ont été laissés à la garde du camp a construit un abri de branchages, long et étroit, appelé Umbana, et qui représente la chrysalide d'où émerge l'insecte. Tous ceux qui ont pris part aux cérémonies antérieures s'assemblent près de l'endroit où cette construction a été élevée. Puis, ils s'avancent lentement, s'arrêtant de temps en temps jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'Umbana, où ils pénètrent. Aussitôt, tous les gens qui ne sont pas de la fratrie à laquelle ressortit le totem de la chenille Wichetti et qui assistent, mais de loin, à la scène, se couchent par terre et face contre le sol. Ils doivent rester dans cette position, sans remuer, jusqu'à ce qu'il leur soit permis de se relever. Pendant ce temps, un chant s'élève de l'intérieur de l'Umbana, qui raconte les différentes phases par lesquelles passe l'animal au cours de son développement, et les mythes dont sont l'objet les rochers sacrés. Quand ce chant s'arrête, Lala Tunja, tout en restant accroupi, se glisse hors de l'Umbana et s'avance lentement sur le terrain qui s'étend par devant. Il est suivi de tous ses compagnons, qui reproduisent ses gestes dont l'objet est évidemment de figurer l'insecte quand il sort de la chrysalide. D'ailleurs, un chant qui se fait entendre au même moment et qui est comme un commentaire oral du rite consiste précisément en une description des mouvements que fait l'animal à ce stade de son développement. Un autre intishuma, célébré à propos d'une autre sorte de chenille, la chenille Unchalka, a plus nettement encore ce caractère. Les acteurs du rite se décorent de dessins qui représentent le buisson Unchalka, sur lequel cette chenille vit au début de son existence. Puis, ils couvrent un bouclier de cercles concentriques de duvet, qui figure une autre sorte de buisson, sur lequel l'insecte, une fois adulte, dépose ses œufs. Quand ces préparatifs sont terminés, tous s'assoient par terre de manière à former un demi-cercle qui fait face à l'officiant principal. Celui-ci, alternativement, courbe son corps en deux, en l'inclinant vers le sol et se soulève sur les genoux. En même temps, il agite ses bras étendus, ce qui est une manière de représenter les ailes de l'insecte. De temps en temps, il se penche par-dessus le bouclier, imitant la façon dont le papillon voltige au-dessus des arbres où il pose ses œufs. Cette cérémonie achevée, une autre recommence à un endroit différent, où l'on se rend en silence. Cette fois, on emploie deux boucliers. Sur l'un sont représentées par des lignes en zigzag les traces de la chenille. Sur l'autre, des cercles concentriques de dimensions inégales figurent les uns les œufs de l'insecte, les autres, les semences du buisson d'érémophile, sur lequel il se nourrit. Comme dans la première cérémonie, tout le monde s'assoit en silence, tandis que l'officiant s'agite, imitant les mouvements de l'animal quand il quitte sa chrysalide et qu'il s'efforce de prendre son vol. Spencer et Guylaine signalent encore chez les Arunta quelques faits analogues, quoique de moindre importance. Par exemple, dans l'intishuma de l'émou, les acteurs, à un moment donné, cherchent à reproduire par leur attitude l'air et l'aspect de cet oiseau. Dans un intishuma de l'eau, Les gens du totem me font entendre le cri caractéristique du pluvier, cri qui est naturellement associé, dans les esprits, avec la saison des pluies. Mais, en somme, les cas de rites mimétiques qu'ont noté ces deux explorateurs sont assez peu nombreux. Seulement, il est certain que leur silence relatif sur ce point vient non de ce qu'ils n'ont pas observé suffisamment d'Inti-Shuma, mais de ce qu'ils ont négligé ce côté des cérémonies. Schultz, au contraire, avait été frappé du caractère essentiellement mimétique des rites Arunta. Les corroboris sacrés, dit-il, sont pour la plupart des cérémonies représentatives d'animaux. Il les appelle des animal churunga. Et son témoignage est aujourd'hui confirmé par les documents qu'a réunis Strelo. Chez ce dernier auteur, les exemples sont tellement nombreux qu'il est impossible de les citer tous. Il n'y a guère de cérémonie où quelques gestes imitatifs ne nous soient signalés. Suivant la nature des totems dont on célèbre la fête, on saute à la manière des kangourous, on imite les mouvements qu'ils font en mangeant, le vol des fourmis ailées, le bruit caractéristique que fait la chauve-souris, le cri du dindon sauvage, celui de l'aigle, le sifflement du serpent, le coassement de la grenouille, etc. Quand le totem est une plante, on fait le geste d'en cueillir ou d'en manger, etc. Chez les Waramunga, l'Inti-Shuma affecte en général une forme très particulière, que nous décrirons dans le prochain chapitre et qui diffère de celle que nous avons jusqu'à présent étudiée. Il existe pourtant chez ce peuple un cas typique d'Inti-Shuma purement mimétique. C'est celui du cacatoès blanc. La cérémonie que décrivent Spencer et Guylaine commença à 10h du soir. Pendant toute la durée de la nuit, le chef du clan imita le cri de l'oiseau avec une monotonie désespérante. Il ne s'arrêtait que quand il était à bout de force, et il était alors remplacé par son fils. Puis, il recommençait aussitôt qu'il se sentait un peu reposé. Ces exercices épuisants se continuèrent jusqu'au matin, sans interruption. Les êtres vivants ne sont pas les seuls que l'on cherche à imiter. Dans un grand nombre de tribus, l'Inti-Shuma de la pluie consiste essentiellement en rites imitatifs. Un des plus simples est celui qui est célébré chez les Urabuna. Le chef du clan est assis par terre, tout décoré de duvet blanc et tenant dans ses mains une lance. Il s'agite de toutes les manières, sans doute pour détacher de son corps le duvet qui est fixé et qui, répandu dans l'air, représente les nuages. Il imite ainsi les hommes nuages de l'Alcheringa, qui, d'après la légende, avaient l'habitude de monter au ciel pour y former des nuages d'où la pluie retombait ensuite. En un mot, tout le rite a pour objet de figurer la formation et l'ascension des nuages, porteurs de pluie. Chez les Kaitish, la cérémonie est beaucoup plus compliquée. Déjà, nous avons parlé d'un des moyens employés. L'officiant verse de l'eau sur les pierres sacrées et sur lui-même. Mais l'action de cette sorte d'oblation est renforcée par d'autres rites. L'arc-en-ciel est considéré comme étroitement en rapport avec la pluie. On dit qu'il en est le fils et qu'il est toujours pressé de paraître pour la faire cesser. Pour qu'elle puisse tomber, il faut donc qu'il ne se montre pas. On croit obtenir ce résultat en procédant de la manière suivante. Sur un bouclier, on exécute un dessin qui représente l'arc-en-ciel. On emporte ce bouclier au camp, en ayant soin de le tenir dissimulé à tous les regards. On est convaincu qu'en rendant invisible cette image de l'arc-en-ciel, on empêche l'arc-en-ciel lui-même de se manifester. Entre-temps, le chef du clan, ayant à ses côtés un pitchi plein d'eau, jette dans toutes les directions des flocons de duvet blanc qui représentent les nuages. Des imitations répétées du cri de pluvier viennent compléter la cérémonie, qui paraît avoir une gravité toute particulière. Car pendant qu'elle dure, ceux qui y participent, comme acteurs ou comme assistants, ne peuvent avoir rapport avec les femmes. Ils ne peuvent même pas leur parler. Chez les Dieri, les procédés de figuration sont différents. La pluie est représentée non par de l'eau, mais par du sang, que des hommes font couler de leurs veines sur l'assistance. En même temps, Il lance des poignées de duvet blanc qui symbolisent les nuages. Antérieurement, une hutte a été construite. On y dépose deux larges pierres qui figurent des amoncellements de nuages, présage de la pluie. Après les y avoir laissées quelque temps, on les transporte à une certaine distance de là, et on les place aussi haut que possible sur l'arbre le plus élevé qu'on peut trouver. C'est une manière de déterminer les nuages à monter au ciel. Du gypse réduit en poudre est jeté dans un trou d'eau, ce que, voyant, l'esprit de la pluie fait apparaître aussitôt les nuages. Enfin, tous, jeunes et vieux, se réunissent autour de la hutte et, tête baissée, se précipitent sur elle. Ils passent violemment au travers, recommencent le mouvement plusieurs fois, jusqu'à ce que, de toute la construction, il ne reste plus debout que les poutres qui la supportent. Alors, on s'en prend à ces dernières, on les ébranle, on les arrache, jusqu'à ce que tout s'écroule définitivement. L'opération qui consiste à percer la hutte de part en part est destinée à représenter les nuages qui s'en trouvent et l'écroulement de la construction, la chute de la pluie. Dans les tribus du Nord-Ouest, qu'a étudié Clément et qui occupent le territoire compris entre la rivière Fort Sioux et la rivière Fitzroy, des cérémonies sont célébrées qui ont exactement le même objet que l'Intishuma des Arunta et qui semblent être, pour la plupart, essentiellement mimétiques. On appelle Tarlow, chez ces peuples, des tas de pierres, évidemment sacrées, puisque, comme nous allons le voir, elles sont l'objet de rites importants. Chaque animal, chaque plante, c'est-à-dire en somme chaque totem ou sous-totem, est représenté par un Tarlow, dont un clan déterminé a la garde. On voit aisément l'analogie qu'il y a entre ces Tarlows et les pierres sacrées des Arunta. Quand les kangourous, par exemple, deviennent rares, le chef du clan auquel appartient le Tarlow des kangourous s'y rend avec un certain nombre de ses compagnons. Là, on exécute différents rites dont les principaux consistent à sauter autour du Tarlow, comme sautent les kangourous, à boire comme ils boivent, en un mot, à imiter leurs mouvements les plus caractéristiques. Les armes qui servent à la chasse de l'animal jouent un rôle important dans ces rites. On les brandit, on les lance contre les pierres, etc. Quand il s'agit des émous, on va au tarlot de l'émou. On marche, on court comme font ces oiseaux. L'habileté dont font preuve les indigènes dans ces imitations est, paraît-il, tout à fait remarquable. D'autres tarlots sont consacrés à des plantes, à des graines d'herbe par exemple. Dans ce cas, ce qu'on imite, ce sont les opérations qui servent à vanner ces graines ou à les moudre. Et, comme dans la vie ordinaire, ce sont les femmes qui sont normalement chargées de ces soins, ce sont elles aussi qui s'acquittent du rite, au milieu des chants et des danses.